c'est le chiffre de la semaine. Deux chiffres qui m'ont vraiment totalement affolé. C'est, oui, c'est dur d'être un bébé en ce moment. C'est mieux, plus facile d'être un chien ou un chat, surtout en France. 800 000, c'est le nombre d'habitants en moins au Japon en 2023, encore un record. Et alors le chiffre qui est totalement effarant pour ceux qui ne sont pas habitués à la démographie, pour avoir un taux de renouvellement de la population, renouvellement juste de la population, il faut avoir un taux de fécondité qui soit à peu près supérieur à 2,05, 2,06. Et le chiffre, j'avais jamais vu ça, personne n'avait vu ça, puisque c'est un record, hors période de guerre évidemment. Corée du Sud, 0,72, c'est le taux le plus bas. C'est-à-dire 0,72, dites-vous bien, c'est comme s'il n'y avait plus d'enfants. Donc on a de plus en plus de chats, de plus en plus de chiens, de moins en moins d'enfants et de plus en plus de seniors, puisque les anticipations sur 2050 nous donnent à peu près une dizaine de pays développés dont la population de plus de 65 ans dépassera les 40%. L'impact de la démographie avec allongement de la durée de la vie, réduction de la population et baisse des naissances, la mécanique économique, c'est quoi? Quand on vous donne ça comme cas économique, alors, vous dites, voilà, ça débouche sur quoi?
Alors, du point de vue de nos métiers de gestion pour compte de tiers, ça touche directement l'épargne, donc c'est très important, puisque le cycle de vie nous apprend qu'on épargne quand on est jeune, et puis quand on est vieux, on épargne moins, donc. Les fameuses liquidités, la fameuse épargne disponible devrait se réduire drastiquement. Donc c'est déjà un premier élément. Après, du point de vue économique, pour la croissance potentielle, on en a beaucoup parlé, l'expansion non pas de la population dans son ensemble, mais de la population en âge de travailler, de la population qui travaille, c'est un des deux facteurs qui explique la croissance potentielle avec la productivité. Donc oui, c'est aussi compliqué d'imaginer des sociétés vieillissantes et d'imaginer qu'on puisse continuer à avoir une croissance potentielle de 2% aux États-Unis.
Sauf si on a une explosion de la productivité avec l'IA, par exemple.
Il y a l'explosion de la productivité, il y a aussi, et par exemple la Chine est en train d'y penser, parce que la Chine a aussi un problème de démographie.
2 millions d'habitants en moins en 2023.
Ils ont essayé
à l'échelle d'1,4 milliard pour l'instant.
De tripoter les facteurs démographiques avec la politique de l'enfant unique, c'est toujours une très mauvaise idée, hein, puisqu'on se retrouve longtemps après dans une situation difficile. Et donc le gouvernement chinois est en train de réfléchir à deux idées, de repousser l'âge du départ à la retraite. Alors la retraite, c'est pas comme nos systèmes chez nous, mais c'est 60 ans pour les hommes qui travaillent derrière un bureau, enfin hommes, et 55 ans pour les femmes, et c'est 50 ans pour les gens qui travaillent en usine. Donc ils envisagent non seulement de repousser un petit peu cet âge de la retraite, et surtout en Chine et ailleurs, il y a une sorte de politique anti-vieux. Hein. En Chine, apparemment, au-delà de 35 ans, on est considéré comme vieux dans une entreprise. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. Et donc, l'idée de revenir sur cet élément, parce que la courbe de la productivité de quelqu'un qui travaille, c'est ce qu'on appelle un U inversé, c'est-à-dire au début, ce n'est pas terrible, on monte en puissance, et puis l'idée, c'est que quand on est vieux, ça baisse, mais déjà peut-être que ça baisse moins vite que ce qu'on imagine, etc. Donc voilà, il y a
donc
ces
pistes. Donc vous nous dites moins de croissance? Et mais vous nous dites peut-être moins de liquidité.
Alors, si on ne fait rien, moins de croissance.
Anna, l'impact de...
Alors, moi, ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas parce que déjà, le Japon a des ressources. Hein, on l'a vu par le passé, hein, de tout temps. Donc, voilà, ne pas...
Le Japon a des ressources, mais il a eu 30 ans de déflation.
Oui, mais...
Et de croissance zéro. Donc,
justement, ils ont eu le temps d'en apprendre. Ouais. En tout cas, le Japon, je pense, a des ressources. Alors, ensuite... Pourquoi ça m'inquiète pas tellement? Parce qu'il y a quand même des évolutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seniors qui représentent 30% de la population au Japon, ils représentent à peu près 45% de la consommation. Ce qui est bien plus, effectivement, que traditionnellement, ce que tu as dit, Nathalie. D'habitude, on dit, oui, les seniors, ils consomment moins, donc moins de croissance, etc. C'est pas le cas, c'est pas ce qu'on observe de plus en plus, et encore moins au Japon, comme j'ai dit, 45% de la consommation. Ensuite, il y a de plus en plus de seniors actifs du fait des progrès de la santé, etc. Et surtout, la silver economy. La silver economy, c'est-à-dire les dépenses de R&D dans le PIB japonais, c'est à peu près 3,7. Et majoritairement, évidemment, de la dépense privée qui est catalysée, si je puis dire, par des investissements publics. Donc, il y a tout un pan de l'innovation qu'on appelle la silver, hein, silver economy, hein, silver du fait de...
Les cheveux gris, ça y est, on a compris, c'est pas la peine d'enfoncer, voilà. Là. Bon. Allez, ça va.
Pas. Non, mais ça donne du charme.
Non, mais ça va.
Mais c'est. Voilà, donc ça suscite. C'est qu'ils sont très productifs, donc productivité, croissance. Effectivement, ça leur permet d'engranger de l'épargne, hein, voilà. Beaucoup d'épargne qui vont placer dans les pays où là, il y a une démographie jeune et la population active, et ils en tirent les dividendes. Donc, pour le coup.
Donc, des pays de rentiers. Intéressant, bon, un point de vue qui me redonne un peu le moral.